un petit pas avant le match de Ligue des Champions contre Manchester City mercredi en Ligue des Champions, je le répète, mais un grand pas pour le titre dans la Liga 2023-2024 pour ce Real Madrid avec cette victoire des Merengues sur la pelouse du Real Mallorca, 1 but à 0 grâce à Aurélien Tchouaméni. Voilà, une dynamique qui est confortée dans le cadre national. Pas de grands enseignements avant le quart de finale retour de Champions League. On va essayer de revenir sur tout ça avec j'allais dire l'équipe que vous êtes amené à connaître un petit peu. Donc un petit peu de rotation nous aussi hein, dans l'équipe. Il y a quand même le titulaire, Hichem, pour Real French Madrid. Et j'allais dire celui qui prend la place de Brahim Diaz cette saison avec Abdou du journal du Real. Salut messieurs.
Salut,
Bonsoir tout le
salut.
monde.
Salut à tous. J'allais dire trois points qui font grave du bien et qui maintiennent l'écart avec Barcelone avant le Classico. 8 points d'écart. J'allais dire, c'est comptablement qu'on est satisfait plutôt que ce qu'on a vu sur le terrain, Hichem.
Ah, ça c'est plutôt clair. On savait qu'il fallait gagner cette rencontre contre Majorque. C'est une rencontre et c'est une équipe qui est jamais vraiment facile à jouer, même si sur le papier tu dis Real Mallorca, tu donnes l'avantage au Real Madrid, n'en est que sur le terrain. C'est assez poussif depuis quelques saisons, j'ai l'impression. C'est une équipe qui, je dirais pas qui nous pose de gros problèmes, mais qui parfois est un peu embêtante
Ah,
à
fait chier
certains
un
moments.
peu.
Et on a eu. Tout ce que je suis en train de dire, bah, on l'a vu ce week-end. Hein. Dans le contenu, tu le rappelais, c'est pas fameux. On s'est quand même pas mal ennuyé. Même si le. En fait, ok, il n'y avait pas énormément d'occasions et ça, c'est manifeste. Mais il y avait quand même de l'enjeu parce que c'est quand même une équipe qui a réussi à être demi-finaliste de Copa del Rey, si je me trompe pas. Donc, elle a certaines qualités. Et puis, ça se battait quand même un peu sur le terrain. Mallorca qui se laisse pas faire face à cette équipe du Real, équipe du Real qui était en rotation. Nous, on est en rotation ce soir, mais cette équipe du Real était également en rotation, donc titulaire. Avec Joselu, Brahim Diaz,
Ah oui.
la
Lucas
retitularisation de
Lucas
Nacho,
Vasquez hein, aussi également.
Lucas Vazquez, effectivement. Et globalement, même si on s'est ennuyé, j'ai trouvé quand même que les joueurs étaient appliqués, dans le fait d'essayer d'obtenir les 3 points. Et puis il y a Aurélien Tchouaméni qui vient nous délivrer avec un but splendide, but qu'il avait travaillé à l'entraînement la veille, il en avait marqué un similaire, et là qui met en pratique dans un match à enjeu, j'ai envie de dire, puisque comme je le disais au début, il fallait gagner ces 3 points et ça a été le cas.
Ben, j'allais dire que au journal du Real, hein, qui on va dire notre partenaire et qui donne les notes aussi par rapport à la rencontre et qui aussi fait ses débriefs, il y a Médric qui a parlé d'un plan sans accroc, Abdou. Est-ce que c'était vraiment un plan sans accroc justement avec le turnover qui avait été qui était impliqué, on va dire imposé par le coach? Qui a fait, on va dire, qui a été sans accroc ou voilà, c'est, j'allais dire, c'est Aurélien Tchouaméni qui nous sort vraiment l'épine du pied dans un match où le 0-0 n'aurait pas été un scandale, même si le Real Madrid quand même a eu des occasions et aurait pu gagner 2 ou 3-0 quand même, hein.
Bah, je te dirais que la vérité est un petit peu coincée entre les deux.
Tout le temps,
C'est-à-dire
hein.
que.
Avec Abdou, c'est toujours la vérité coincée entre les deux.
Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis suisse à la base. Pour que j'ai un avis très tranché et que je sois très catégorique, il faut vraiment y aller très fort. Bref,
Ah
tout
là
ça
là.
pour dire.
Suisse de Conakry.
Vous voyez, c'est ça le problème avec Esprit Madridista. C'est que ça commence toujours comme ça. Moi, j'ai rien demandé à la base. Voilà. Et là, vous êtes témoin. Les auditeurs sont témoins. Bref, je reviens sur mon propos. Pardon. Je reviens sur mon propos. Donc, Aurélien Tchouaméni nous sort d'un sacré pétrin, mine de rien, parce que les déplacements sur la pelouse de Majorque, c'est souvent âpre, c'est souvent compliqué. T'en tires pas grand-chose la plupart du temps. C'est pas des matchs où t'en gardes un souvenir impérissable. Où tu te dis, waouh, vraiment, ce match-là, à Majorque, c'est pas forcément la date que tu vas cocher dans le calendrier, mais c'est souvent un déplacement piégeux. Et réussir à choper les 3 points sur cette pelouse-là, maintenir le même écart de points avant le Classico de la semaine prochaine face au Barça qui s'est imposé sur le même score, pardon, 1-0 aussi, eh ben, c'était l'opération à faire. Et la partie, le plan sans accroc, c'était quand même. Était obligé de faire tourner après Manchester City parce que ça a été un match très éprouvant et tu sens que les joueurs n'avaient pas retrouvé tout leur cardio, comme je l'ai dit lors du débrief, et ça s'est confirmé avec les propos de Federico Valverde dans la presse. Les 9 jours de repos ont peut-être porté un peu préjudice parce que du coup, tu as passé un peu trop de temps dans le formol, tu as passé un peu trop de temps sans te dégourdir les jambes et ça, tu l'as payé cash. Mais là, du coup, dans une optique de turnover, t'as quand même préservé tes titulaires pour que mentalement ils soient bien, ils soient en forme. Surtout Toni Kroos, c'était vraiment le match où tu ne fais pas le voir. Malheureusement, on va le voir mercredi et plus de 60 minutes, c'est un problème, mais ça, on en parlera plus tard. Mais voilà, tu as fait tourner Vinicius, tu as fait tourner Rodrigo, Camavinga, Kroos, c'est des éléments clés et c'est limite même si tu dois gagner à Manchester City, ce sont les éléments-là qui te feront gagner. Donc, dans cette optique-là, arrive un petit peu, tu ramènes du Rossellou, tu ramènes du Brahim, et mine de rien, c'est pas un match exceptionnel. La première mi-temps était atroce, vraiment, il faut le dire. Tout le monde est à côté, Luka Modric ratait des passes, Brahim essayait plus de faire dans l'esthétisme que dans l'efficacité. C'était un problème, mais à l'arrivée, tu as réussi à faire tourner. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de bobo après ce match-là. Tu as conservé le même écart de points en classement en Liga. Le plan se déroulait sans accroc.
Oui, bien sûr. Et c'est vrai que quand on voit, par exemple, voilà, au niveau comptable, ce que ça donne, on peut être satisfait. Je voulais revenir sur un paramètre qui a pesé sur la rencontre. C'est en fait le carton jaune d'Aurélien Tchouaméni contre Manchester City nous a permis de prendre les 3 points ce soir parce qu'il y aurait eu de grandes chances qu'Aurélien Tchouaméni ne joue pas cette rencontre s'il était encore sous le, s'il n'était pas suspendu contre City mercredi. Et donc, du coup, il a été aligné titulaire au milieu de terrain. Et du coup, voilà, donc il a su sortir de son chapeau ce but que l'on attendait. Et surtout, ben voilà, donc on regarde aussi la configuration de cette rencontre. Ben, le Real a été, j'allais dire, oui, aurait pu marquer voilà, un deuxième but, un troisième but. Il y a eu de très belles, une belle combinaison, justement, donc, notamment avec Brahim qui devait être à la conclusion. Il y avait Vinicius aussi qui est rentré à l'heure de jeu, qui aurait pu aussi apporter, j'allais dire, sa pierre à l'édifice. Voilà, j'allais dire que voilà, il y a peut-être eu, allez, une ou deux actions où on aurait pu être inquiété par Majorque, notamment avec cette frappe de Sergi Darder, avec un Lounine dont on n'avait pas beaucoup parlé ce mercredi lors du match aller, et qui, encore une fois, donc maintient un nouveau clean sheet, maintient ce Real Madrid en tant que meilleure défense de la Liga, et qui fait, on va dire, l'arrêt qu'il faut pour pouvoir préserver ces 3 points qui ont été arrachés de l'autre tout Hichem. Donc, est-ce que c'est bien quand même de savoir qu'on peut compter sur tout le monde parmi les titulaires qui ont été alignés sur ce match contre Majorque?
Bah, tout à fait. Abdou le rappelait à juste titre, en fait, c'est que il était important de redonner du rythme pour un certain nombre de joueurs avant la confrontation, j'ai envie de dire, de la saison, hein, quasiment, hein. Ce match retour contre Manchester City. Donc tu retrouves, tu impliques déjà des remplaçants. Ça, c'est une très bonne chose. On aura peut-être besoin. On sait-on jamais, hein, un profil comme celui de Rossellou peut nous être utile dans certaines situations contre Manchester City. Alors pas en tant que titulaire, hein, cela va de soi, mais dans une rotation, apporter en fait un aspect physique pour déstabiliser les défenseurs de Manchester City qui sont habitués quand ils jouent au Real Madrid, contre le Real Madrid plutôt, à avoir des joueurs avec un physique beaucoup moins important que celui de Rossellou. Je pense à Rodrigo et Vinicius. Et puis après, voilà, donc Jude qui joue une bonne partie de cette rencontre, puis qui est remplacé au bon moment par Carlo Ancelotti, si je ne me trompe pas. Derrière aussi, t'as Brahim Diaz qui a pu se déchaîner. Bon, il y a eu quelques pertes de balles décriées par son coéquipier Federico Valverde, mais cela reste assez intéressant dans le contenu, ce qu'il propose notre cher Brahim. Et enfin, surtout, très important, la titularisation de Nacho. Bah oui, parce que Tchouaméni étant absent, il est fortement pressenti pour prendre la place de titulaire aux côtés d'Antonio Rüdiger pour le match retour. Et j'ai scruté la performance de Nacho, donc c'est pas mal, c'est bien. Mais est-ce que ça sera suffisant contre Manchester City? Pas sûr. Et puis j'ai envie de, pour Nacho en tout cas, j'ai envie de me reposer sur d'autres performances qu'il a pu faire par le passé, alors que j'avais dit les dernières semaines pour Nacho qu'il fallait pas s'attendre à ce qu'il nous fasse des rencontres comme il en a pu faire par le passé, et que c'est pas logique de penser à ça pour la rencontre contre Manchester City. Mais là, manifestement, on est obligé d'avoir un peu d'espoir et de confiance en Nacho, en espérant qu'il nous fasse rêver comme d'autres soirs, alors que sa saison est assez mitigée pour le coup.
Bah, Abdou, moi on m'a fait la remarque comme quoi la saison, le match que va faire Nacho, normalement en défense centrale, parce que, petite parenthèse avant de repasser la parole à Abdou, Carlo Ancelotti, qui en conférence de presse, dit « Oui, je ne veux pas regarder le nombre de minutes de Eder Militao, s'il doit être titulaire ou pas. » On sait très bien que s'il le fait jouer titulaire, c'est se suicider pour lui, pour le joueur lui-même, puisqu'il n'a que 4 minutes, 8 minutes dans la saison en termes de compétition avant de jouer un match aussi important, ce qui n'est pas, on va dire, pour récupérer du rythme, ce qui n'est pas concevable. Mais et donc là du coup, donc voilà, pour ça, c'est pour ça qu'elle est écartée, qu'on sait maintenant que ce sera Nacho qui sera titulaire. Mais Abdou, toi qui aimes, on va dire, l'histoire un petit peu, est-ce que ce match là pour Nacho, 34 ans cette année, ce serait pas, on va dire, l'équivalent du Real Juve de 2003 pour Fernando Hierro? Donc c'est-à-dire que si il y a victoire, bon, je pense qu'on peut envisager encore un tour avec lui, mais que s'il y a défaite et qu'il y a une prestation, on va dire, en deçà du niveau de l'équipe, la fin de contrat qui va être automatiquement, on va dire, scellée pour lui, parce que j'ai l'impression que là on est dans ce scénario-là. Est-ce que il est sur un entretien préalable à un licenciement ou une prolongation sur cette rencontre?
Ben, je te dirais que si tu regardes la prestation de Fernando Hierro contre la Juve en 2003, ça n'a pas été le pire, ça n'a pas été le meilleur non plus. Mais surtout, ce qui a conditionné...
Il était perdu quand même, hein, tu vois, il y avait la main dans le vent justement quand Nedved partait sur le troisième but quand même.
Ouais, c'est vrai, mais tu vois aussi, il faut dire que ce qui a un petit peu tout décidé, c'est que Ronaldo Nazario s'était mué en Alvaro Morata sur la double confrontation, et ça a pas mal gêné les ambitions du Real Madrid, il faut le dire.
Il était diminué, légèrement diminué quand même.
Oui, il était légèrement diminué, mais bon, il a quand même raté des occasions, c'était presque des tapines, quoi. Mais bon, on va pas refaire l'histoire non plus, mais on a vu des ratés. Tu t'appelles Ronaldo, t'as ce talent-là, tu te dis quand même, Toto, faut finir.
Pour nos amis madrilènes qui n'ont peut-être pas vécu cette période-là, il y a quand même un penalty qui l'a provoqué sur, on va dire, l'une de ses un ballon en deuxième période, et Luis Figo a raté le penalty. Je pense que ça biaise un petit peu votre analyse, Abdou. Mais voilà, je vous laisse continuer.
Non, Vous êtes un très très bon avocat, monsieur Lawson, je tenais à vous le dire.
Je vous remercie.
Non, honnêtement, moi, j'ai confiance en Nacho. Je me dis, il n'a rien à perdre. Nous aussi, de toute façon, vu notre situation en défense. Donc, honnêtement, je vous dis, moi, je m'attends à une bonne surprise de la part de Nacho. Alors,
on espère.
C'est pas lui qui va prendre de vitesse Jack Grealish. C'est pas lui qui va réussir à prendre de vitesse Jérémy Doku. Qu'on soit très clair là-dessus. Mais dans son registre, dans ce qu'il est amené à faire, honnêtement, est-ce que c'est l'élément qui m'inquiète le plus sur ce match de Ligue des Champions? Franchement, non. Non. Moi, je te dis, honnêtement, écoute, moi, je vais te dire, tu vas arriver dans un Etihad chauffé à blanc, en sachant qu'en plus, là, ils ont pris la confiance parce que là, comme ils ont fait la bonne opération du week-end en Première Ligue, Liverpool a perdu, Arsenal a perdu, ils ont retrouvé la première place.
Vous avez perdu Liverpool.
Ça arrive à tout le monde, ça va. De toute façon, moi, j'ai toujours dit à la
genre, là, Liverpool, genre, il y a une semaine, il y a deux matchs, ils ont perdu les deux, en fait.
C'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien, tu tires sur un amateur. C'est pas bien ce que tu fais, Gilles, c'est pas bien.
Oui, c'est vrai, bref. Non. Je sais pas dans quel temps on sera mercredi, donc je rigole doucement quand même.
Mais c'est pour te dire que là, typiquement, les choses sont en train de tourner en la faveur de Manchester City, qui a toujours d'ailleurs le triplé en ligne de mire, parce qu'ils sont encore qualifiés en demi-finale de FA Cup. Donc à l'arrivée, t'arrives dans cet étirage chauffé à blanc, tu sais qu'ils vont te prendre à la gorge et qu'ils vont te presser, tu vas jouer bas, et t'alignes Toni Kroos face à ce pressing-là. Moi, je te dis, Nacho, c'est vraiment pas mon premier problème. Je te le dis. Ah oui. Franchement, Toni Kroos, en vrai de vrai, Toni Kroos, à partir de la 60e minute, là, je vais être vraiment inquiet. Les 60 premières, ça va. Mais c'est après, je vais me dire, bon, tonton, faut vraiment commencer à le sortir. Venez, on fait rentrer Modric. Il a les jambes fraîches, il va tenir 30-35 minutes, peut-être un peu plus s'il y a prolongation. Mais pas plus, tu vois. Parce que, moi, je revois le match aller, la perf de Toni Kroos. Et même de façon globale, dans les matchs où on met beaucoup d'intensité, ou en face, où il y a beaucoup de pressing, on essaye de rentrer dans l'art du Real Madrid, très souvent, quand même, il nous coûte cher. Alors après pour être vraiment l'avocat du Real Madrid, il ne faut pas oublier quand même que cette année, des meilleures performances du Real Madrid en Ligue des Champions, ça a été à l'extérieur. Donc, si, parce que tu repenses au Napoli, tu peux repenser à Leipzig aussi. Bon, Leipzig, c'est relatif, mais vous m'avez compris. Le club allemand, c'était l'Union
Berlin
aussi.
Ah, ouais, bon, le monde, aussi. Berlin,
à l'arrivée.
Ouais,
si Braga aussi. Braga
oui,
aussi. Donc,
oui,
franchement,
oui,
je veux
oui,
dire,
oui, oui.
Cette année, franchement, est-ce qu'on n'est peut-être pas mieux loin de nos bases en Ligue des Champions? Je ne sais pas. Mais concernant Nacho,
j'ai lu la question de la dynamique. On n'a pas perdu à domicile en cette saison, Abdo. Donc.
On n'a pas perdu, il est vrai. Mais si tu t'intéresses au contenu qu'on propose à domicile, franchement, à part Naples, les matchs à domicile cette année du Real Madrid en Ligue des Champions, l'Union de Berlin, tu gagnes à la 95e 1-0. C'était qui encore? C'était Braga. Braga, c'est sur le fil aussi. Là, c'est une ambiance bizarre. Manchester City, tu fais 3-3. Leipzig, ils ont fait 1-1. Et peut-être que ce match, ils auraient dû le gagner. Même très certainement qu'ils auraient dû le gagner. Honnêtement... Oui, t'as pas perdu sur le papier, mais dans les faits, dans le contenu, c'est grincheux un petit peu.
Moi, je suis d'accord avec Abdou dans son analyse par rapport à domicile ou à l'extérieur, mais je suis moins d'accord sur Nacho, vu tout ce qu'il nous a montré cette saison. Et à contrario, tu vois, tu cites Toni Kroos, Abdou. Mais en vrai, Toni Kroos, sur les derniers mois et puis la saison qu'il nous livre, c'est juste exceptionnel. Donc, peut-être, oui, dans une configuration et dans une situation où Manchester City presse très fort. Ok, Kroos n'est peut-être pas à son avantage certain, mais...
Hicham, il ne veut pas défendre, c'est ça c'est le problème de Toni Kroos. C'est qu'en fait, il laisse la besogne à des... Eh petit, défends pour WAM, s'il te plaît. On a l'impression qu'il est comme ça sur le terrain. C'est ça, on va dire que c'est pas qu'on lui reproche, mais en fait, il faut qu'on ait le pied sur le ballon alors qu'on sait que contre City, on ne l'aura pas forcément, surtout quand ils sont à domicile.
Ce problème-là, il doit être réglé par Fede Valverde. simplement. Il doit, Fédé doit venir, comme on l'a vu ce week-end. D'ailleurs, c'était assez intéressant à voir. Une action dont on a parlé tout à l'heure, où Brahim perd la balle et t'as Fédé qui revient compenser numériquement le Real Madrid pour intercepter le contre adverse. C'est dans ces situations-là que Fédé aura une plus-value contre Manchester City. Et j'ose espérer que Carlo Ancelotti, ça a été une de ses consignes ce week-end, mais également que ça sera une consigne contre Manchester City. C'est-à-dire que c'est de venir épauler Eduardo Camavinga et laisser Toni Kroos un peu plus dans la mise en place du tempo de l'équipe, comme il l'aime, dans son registre, tout simplement. Donc oui, il a des lacunes, c'est pas sa qualité première de défendre, mais il peut faire mal s'il est mis dans les bonnes conditions. Et j'espère en tout cas qu'on trouvera un équilibre au milieu de terrain contre Manchester City. Mais vraiment, moi, celui qui m'inquiète, c'est Nacho dans une rencontre aussi importante.
Bah, parce que...
Moi, je vais te dire, ouais, allez, Nacho n'est pas un problème. Nacho n'est pas un problème dans le sens... Enfin, c'est pas un problème. Tu peux avoir des inquiétudes, c'est logique. Mais je pense pas que ce soit ton premier problème parce que finalement, on peut épiloguer longtemps. Mais l'association Nacho-Rudiger, cette saison, c'est l'association qu'on a le plus vue, si je ne m'abuse, en 1. Ensuite, en 2, même si au début, ça a été souvent compliqué, mais de tout notre effectif actuel, joueurs blessés compris, c'est peut-être la charnière la plus complémentaire qu'on ait sur le papier. Parce que Rudiger, Nacho... Rudiger, Militao, pardon. Même si ce sont nos deux meilleurs centraux sur individuellement parlant, je les trouve pas super complémentaires. À la base, c'est une autre chanson aussi. Donc à l'arrivée, Nacho Rudiger, ça se complète plutôt bien. Et moi, je pense même que Nacho, lui, c'est peut-être pas, il va pas faire du David Alaba, mais je pense que sur un Erling Haaland, tu vois, peut-être que tu vas un peu plus décharger Rudiger, et peut-être que Rudiger va pouvoir un peu plus influer sur le jeu.
Oh,
c'est une option qu'on voit pas, tu vois.
Faudrait pas.
Comme ça, c'est une option que. C'est pas quelque chose que
je tenterai pas le diable.
Ouais, moi non plus.
Sur le, moi je laisserai Rudiger à la culotte de Monsieur Erling Haaland et Nacho faisant le reste du travail. Après tu parles de complémentarité, je trouve pas qu'il soit vraiment complémentaire plus que ça. Oui, Nacho c'est un peu mieux dans la relance que Rudiger qui est dans un registre, un autre registre qui est plus dur sur l'homme. Mais après si tu ouais, m'avais dit Aurélien Tchouaméni et Anthony Rudiger, oui c'est assez complémentaire pour le coup. On va dire que Tchouaméni compense par sa lecture du jeu, son placement et d'autres formes d'intelligence défensive, là où Nacho cette saison en fait il fait des conneries hein, je suis désolé de te dire mais
oui non il a fait des erreurs mais bon est-ce que par exemple Nacho aurait fait l'erreur de d'Aurélien Tchouaméni au bout de 40 secondes de
je
jeu
suis d'accord enfin, je suis d'accord
c'est là en
mais
fait
ça c'est un manque d'expérience.
Ah, mais c'est pour ça, c'est qu'en fait, en gros, on met un plan pour se dire, tiens, on a envie de voir autre chose que Nacho qui fait une erreur, et au bout de 40 secondes, le plan tombe à l'eau. Et en plus, derrière, on prend un but. Donc, c'est-à-dire que là, son inexpérience nous a coûté un but qui, justement, donc, au moment de faire les comptes, fait qu'on n'a pas gagné ce match contre City. Donc,
après, voilà, oui, mais après, ça, pour moi, ça.
Quelle cruauté de ma part. Hein.
Non, oui, ben. Pour moi, ça ne remet pas en cause le fait que, à ce moment-là, si tu as un choix, en tout cas, c'est mon avis, hein, si tu as un choix entre Nacho et Tchouaméni, j'aurais quand même mis Aurélien Tchouaméni, quand bien même, en fait, derrière, on s'encaisse un but et qu'il y a un manque d'expérience, parce qu'on juge par ce qu'il a fait précédemment, et pas sur est-ce qu'il va faire une erreur à ce moment-là. Tu vois, on ne sait pas, c'est des faits de jeu, c'est un cas isolé, il s'est trompé. J'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire ça arrive, mais parce que c'est une rencontre qui est assez importante. Mais est-ce que Nacho est pas capable de pire que Aurélien Tchouaméni?
Justement, moi je pense que de ce qu'on a pu voir par le passé, moi je vais repartir tout simplement des expériences qu'on a eues par exemple l'an passé. L'an passé, Nacho a toujours montré qu'il avait été fiable, il avait été aussi à la hauteur de sa prolongation de contrat qui avait été réclamée par nous autres et aussi sur les saisons précédentes en Coupe d'Europe. Moi par exemple, la Ligue des Champions 2020-2021. L'erreur de Zidane, c'est d'avoir fait confiance à Varane et à Sergio Ramos, alors qu'il y avait Militao et Ramos et Nacho qui ont été fiables contre Liverpool en c'était quoi? C'était en quart de finale et en
Tu
deux
sais, Gilles, que c'est
et
une
en, et
question
en...
de hiérarchie.
Mais question de hiérarchie, mais le problème c'est que ce rapport hiérarchique, quand il y a des joueurs qui se blessent ou que, voilà qui disparaissent et qu'il y a des mecs comme en pompier de service et qui rendent de fiers services, tu dis, faisons confiance. Et le problème, c'est qu'on a fait confiance à des mecs au nom de la hiérarchie et on a fait n'importe quoi contre Chelsea à l'aller et au retour.
Mais au nom de la gestion d'un vestiaire qui doit être minutieusement établi comme dans un club comme celui du Real Madrid, t'as Ramos qui revient, t'as Varane qui revient. C'est pas pour défendre Zidane, mais va expliquer aux gars,
Mais juste.
allez sur le banc, là, il y a vos remplaçants, ils ont été meilleurs que vous, on va y
Ah,
aller doucement
mais
avec
c'est
vous.
le
Bah
rôle du
oui, il faudrait
coach.
le faire.
C'est le rôle du coach,
Oui, il
Hicham.
faudrait le
Et
faire. Il y a une
regarde,
réalité derrière.
mais qu'est-ce qui s'est passé justement pour tout ce beau monde, que ce soit Zidane, que ce soit Ramos ou Varane, ils sont tous partis derrière. Et maintenant, aujourd'hui, Militao est un titulaire est un titulaire en puissance dans cette équipe. Nacho est toujours là. On aurait pu se poser la question. Et surtout, voilà, pour Carlo Ancelotti, l'exemple de donner de faire jouer un joueur qui en manque de minutes, on a vu avec Ramos en 2021 qu'il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Et voilà, j'ai pas envie de voir Eder Militao titulaire mercredi au risque de
On l'a vu l'année
voir.
dernière aussi,
Et
effectivement.
on l'a vu aussi l'année dernière, justement, quand, ouais,
Bah, Militao,
il avait été suspendu sur le match aller, hein, c'est ça, hein.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Donc,
Et puis, il a réintégré le 11 à la place de Rudiger qui avait fait un match sensationnel.
Ah, et là, mais là, Hichem, là, tu vois que, là, j'allais dire que ton argument t'a contredit un petit peu, parce que le remplaçant de Militao a été très bon à l'aller contre City. Au retour, il est sur le banc. Eh, Militao, voilà, il y a eu 4 buts. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans cette
C'est un
situation-là?
très bon avocat, effectivement.
Ah, j'allais dire, je me défends pas trop mal. Mais. mais non, mais c'est vrai que là, pour quelqu'un comme Nacho, de se dire que voilà, il a joué. On va dire, il a joué la rencontre contre Majorque et on l'a préparé à ce qu'il soit là. Et c'est notre capitaine, hein, il faut le dire aussi. J'allais dire que. Je sais pas, en fait, je ne sais pas, parce que c'est vrai que ce que dit Hichem, je suis tout à fait d'accord, parce que cette saison, il m'a plus agacé qu'autre chose dans certains matchs. Mais quand on regarde bien, il n'a pas joué autant de matchs importants que ça. Dans la saison, où on se dit, tiens, on te fait confiance, vieux, comme on a pu le faire auparavant. Donc, du coup, moi, je me dis que dans ce type de rencontre-là, on ne sait pas ce qu'il vaut aujourd'hui, Nacho. On ne sait pas où il en est. Et je suis persuadé que Nacho, à un moment de la saison, il va rendre de fiers services. Depuis le début de la saison, on ne peut pas dire qu'il est rendu de fiers services. C'est le moment, mi-avril, de commencer à rendre ses fiers services jusqu'à arriver donc à la fin de saison. Donc, moi, j'ai envie d'y croire pour lui.
Ah, mais moi aussi, hein, j'ai envie d'y croire. Honnêtement, j'ai envie de lui donner toute la confiance du monde. C'est juste que je constate, voilà, que on a vraiment un choix par défaut de défaut. Et après, lui, bien évidemment, la rencontre, vous le disiez tout à l'heure, est assez dimensionnante, puisqu'elle conditionne, je ne sais pas si elle conditionne vraiment son avenir au sein du club ou pas, mais clairement, il a l'opportunité, si c'est son dernier service qu'il doit rendre au Real Madrid, de le faire avec brio et de sortir par la grande porte, j'ai envie de dire, pour un joueur de son calibre quand même. C'est-à-dire, faire une excellente performance et qualifier le Real Madrid dans un contexte aussi particulier, ça serait, je pense que nous, supporters du Real Madrid, on l'oubliera pas.
Ah non, de toute façon, moi, quoi qu'il arrive, Nacho, la quinzaine d'années qu'il a passé au Real Madrid, voilà, on peut pas l'occulter ou la balayer d'un revers de main. Il y a beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de ce qu'il a pu effectuer. Ah, mais c'est vrai que là, quand je suis en train de parler, je me dis, oh putain, ça commence à ressembler à Fernando Hierro. qui a été, on va dire, à l'issue d'une saison où la Liga avait été remportée. Ah tiens, ça commence à ressembler de plus en plus. il a été mis, voilà, j'allais dire viré par Florentino Pérez, le lendemain de ce titre obtenu en 2003, je me dis, ah, bon, c'est vraiment quitte ou double pour lui, parce qu'on a vraiment besoin de lui, parce que, surtout, dans l'optique du Classico, samedi prochain, c'est ça, hein, samedi prochain, ou dimanche, ouais, voilà, c'est ça. Dimanche prochain. Voilà, donc, week-end prochain, et de la fin de saison, s'il y a qualification en Coupe d'Europe, eh ben, ça permettra à un joueur comme Eder Militao de revenir pleinement dans la course avec plus de rythme, plus de minutes, et évidemment d'être un renfort non négligeable pour cette charnière que Abdou n'attend pas, à savoir la charnière Militao-Rudiger.
Oh non, merci Seigneur. Monsieur Dieu nous en garde. Non,
rapprochez-vous de votre micro, monsieur Abdou.
Non, moi, honnêtement, je vous dis, Nacho, je suis pas inquiet. J'ai un bon feeling sur lui. C'est tout bête, hein, mais au bout d'un moment, je pense que la meilleure analyse que je puisse apporter, c'est l'instinct. Parce que franchement, j'ai roulé ma bosse, j'ai pas mal réfléchi, et des fois, trop d'analyse tue une analyse. Je préfère qu'on laisse faire, on fera le débrief. Je sais pas, peut-être que je serai là, peut-être que je serai pas là. On ne sait pas, ça dépendra de Gilles Chris, des autres. Mais moi, je suis. Moi, Nacho, je n'ai pas d'appréhension particulière. Parce que je me dis, derrière, ça va tenir. Et même à côté de lui, il y a là Ferland Mendy. Et Ferland Mendy, en ce moment, est vraiment en forme. Donc, je me dis, franchement, il est niché entre Rudiger et Ferland Mendy qui est en forme. Honnêtement,
il n'y a pas de raison
pour pas qu'il se mette au diapason.
Bah, j'allais dire, en plus, je commence. À parler, enfin, je ne serai pas l'homme, en tout cas, qui va faire la propagande ou la promotion d'un joueur comme Alfonso Davies au sein du Real Madrid, puisque c'est la rumeur qui enfle depuis maintenant plusieurs mois pour la saison prochaine au Real Madrid. Quand on voit Ferland Mendy, qui actuellement donc revient bien, n'est pas blessé et qui justement défensivement a été solide lors des dernières rencontres et qu'on attend quand même davantage offensivement, ben on se dit effectivement que à quoi ça sert de prendre une recrue, de mettre autant de billets pour un latéral gauche alors qu'on a déjà un latéral gauche qui peut faire bien, voire mieux. Et qui est déjà sous contrat.
Le terrible Fran Garcia, en effet.
C'est une opportunité de marché, on peut pas la louper, je pense.
Moi, je dis avec les latéraux que nous avons, je pense qu'on peut se permettre de passer notre tour.
Après, Alfonso Davies, j'ai pas d'appréhension sur son niveau sportif. Si c'est pas mal.
Ah, t'as vu le match contre Arsenal?
Mais tu vois, en ce moment. Il y a des échos, il y a des rumeurs par rapport à son comportement où il est un peu plus nonchalant, etc. Ah. Alors, est-ce que c'est pour forcer son départ? Est-ce qu'il est simplement comme
non,
ça
non, non,
D'autant
non.
plus qu'il a une petite propension aux blessures. On a déjà Ferland Mendy qui est champion dans le domaine aussi. Donc, je ne dis pas que je suis contre, mais je ne suis pas 100% pour non plus. J'attendrai, franchement, je vais attendre début juin pour me dire, bon, Alfonso Davies, on fait quoi, tu vois?
Non, j'invite j'imagine que les supporters du Real Madrid ont pu aussi regarder le résumé de Arsenal Bayern Munich qui avait lieu dans le même temps. J'invite aussi à regarder la saison du Bayern Munich d'Alfonso Davies D'ailleurs, on salue le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne, sous l'égide d'un ancien joueur du Real Madrid, Xabi Alonso, qui a été incroyable. Je regarde la saison d'Alphonso Davies, je regarde le classiqueur qu'il a effectué, je regarde voilà, la forme qu'il a sur ses dernières rencontres défensivement parlant. Ah non, quand même, je me pose la question.
C'est compliqué, oui.
Ah, c'est très, très compliqué.
Il y a un biais quand même qui est celui de l'équipe. Le Bayern n'est pas oufissime, hein, en soi.
Mais à cause de qui ?
Ah, c'est pas à cause d'un seul joueur, en tout cas.
Non, pas à cause d'un seul joueur, mais il fait partie des joueurs qu'on peut dire « Ah, il y a un problème ici, quand même, non ?»
Moi, j'aimerais citer d'autres joueurs du Bayern, hein, qui ont d'autres problèmes...
Mais en tout cas, on peut pas dire que le Real Madrid est moins bien à cause de Ferland Mendy.
Ah non, ça c'est non. clair.
Et voilà.
Et moi, c'est une excellente nouvelle. Hein. Quand tu regardes ce qu'il est en train de faire, en fait, Ferland, franchement, il revient super bien. Ça fait super plaisir. Honnêtement, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et par ailleurs, les gars, j'ai jamais vraiment compris toutes les critiques qu'on pouvait lui apporter. Ok, oui, offensivement, c'est pas ce qui se fait de mieux.
Non, mais même offensivement.
Tu regardes les duels, il perd rarement un duel, Ferland. Mais, défensivement, c'est très costaud.
Mais même offensivement, on a déjà vu Ferland Mendy qui est capable de se projeter vers l'avant. On se souvient donc de 2020-2021 contre Atalanta, il débloque la situation où il est régulièrement placé dans une situation de relayeur gauche quand on a la balle. Mais honnêtement, pour Ferland Mendy, je ne suis pas un partisan de Ferland Mendy. Il y a des choses qu'il fait, je me dis, mais c'est pas. Oh là là. C'est parce que c'est le latéral, on va dire, c'est l'ancien latéral qui parle et gaucher en plus, qui s'exprime et qui se dit, merde, j'ai raté quelque chose dans ma vie, j'aurais pu jouer au Real
Madrid. Ah non, tu peux pas dire ça.
Quand je vois Ferland Mendy, ça me traverse l'esprit. J'ai des regrets. J'ai des regrets par rapport aux efforts, j'aurais dû faire plus de fractionnés quand même, tu vois, pour pouvoir être endurant et peut-être pour Real Madrid. Mais aujourd'hui, je sais que Pablo est un fervent défenseur de Ferland Mendy parce qu'il trouve que voilà, défensivement c'est solide, c'est carré, qu'il a son truc. Mais voilà, on peut pas. Voilà, je me dis que si il y a une arrivée. En tant que latéral, en parlant d'Alphonso Davies, la valeur ajoutée par rapport aux joueurs que l'on a dans notre effectif, pour moi, elle n'est pas criante. Ce n'est pas comme David Alaba qui arrive en 2021, Ramos s'en va, Varane va partir, il reste des défenseurs centraux. Quand David Alaba vient, tu sais que le meilleur défenseur de l'équipe, c'est David Alaba. Ce n'est pas la même chose ici avec Alphonso Davies.
Et tu n'as personne sur le marché, c'est ça le problème.
Mais et si Ferland, on a le souci, c'est un poste latéral, le Abichem, non ?
Après, le souci avec Ferland, c'est que la direction n'en veut plus également. Donc ça, c'est une dimension que, oui, nous, on constate effectivement qu'il a l'air de remplir son boulot, en tout cas au minimum de ce qu'on lui demande, au niveau défensif surtout. Mais ensuite, la direction, elle, veut s'en séparer. Donc ça, c'est une composante qu'il faut prendre en considération. Et tu sais que la direction veut s'en séparer. Derrière, tu regardes ce qu'il y a sur le marché et ce qui se fait de mieux actuellement et qui est dans le radar du Real Madrid. C'est-à-dire que c'est un joueur quand même, Alphonso Davies, qui a un potentiel, qui n'a pas encore exploité à 100%, est capable de bien s'intégrer en plus dans cette équipe du Real Madrid. Tu es obligé de regarder vers lui. Tu es obligé.
Donc non, oui, on peut regarder des Miguel Gutiérrez par exemple, bien moins cher et qui on va dire
pour refaire une Fran Garcia bis.
Non, mais Fran Garcia n'est pas un échec au Real Madrid. Faut arrêter avec ça. Si lui est un échec, je suis désolé. Tous les joueurs qui ont fait leur première saison au Real Madrid et qui sont dans cet effectif, mis à part Jude Bellingham, on peut dire que ce sont des échecs alors. Et c'est ça qui m'ennuie. Donc non, je pense que il y a une patience que l'on s'inflige pour les joueurs étrangers du Real Madrid, donc c'est-à-dire non espagnols ou même non formés au Real Madrid, que l'on n'accorde pas aux joueurs qui sont formés dans le club et qui ne demandent qu'à s'exprimer au Real Madrid et de pouvoir continuer cette identité de formation. Pourquoi on est comme ça ? Pourquoi on ne veut pas faire confiance à des joueurs qui sont locaux ? Pourquoi c'est l'étranger qui est bien? Pourquoi on veut importer?
Hein, l'herbe est toujours.
L'herbe. Hein, est-ce que les locaux sont au niveau?
Mais j'allais dire, est-ce que. Déjà. Mais j'allais dire, mais quand on parle de d'Alfonso Davies, est-ce que Fernand Davies
La fusion, c'est la fusion des Dragon Ball.
Ouf. Non, mais j'allais dire oui, mais est-ce que par exemple un joueur comme Alfonso Davies, qu'on importe, est sensiblement meilleur pour pouvoir dire que voilà, non, j'allais dire que nos joueurs locaux ne peuvent pas s'exprimer. C'est de ça dont on parle, tu vois. Je me dis pas qu'il y a un écart incroyable qui permet de dire tiens, sortons 50 millions pour payer ce joueur-là.
Mais dans ce cas, tu parles de locaux, même à tous les postes. Est-ce que, à part Miguel Gutiérrez et Fran García qui est déjà là, tu as une idée de locaux qui pourraient monter en équipe première, par exemple? Moi, j'ai un nom. Si on part de cette logique-là, j'ai un nom.
Oui,
vraiment voir en équipe première.
Oui, mais... Nico Paz, oui, peut-être. Voilà. Je ne sais pas si c'est lui dont tu parlais. Ou peut-être Rafa Marine, je ne sais pas, en défense centrale, je ne sais pas.
Non, c'est en attaque. Moi, c'est vraiment Iker Bravo que
je Iker Bravo, hein, oui, oui.
Ouais. C'est lui que j'aimerais voir. Tu vois. Je me dis que
il est Iker pas Bravo, ouf,
plus Henrik, plus Vini, plus Rodrigo, plus Brahim. Il y a quelque chose à faire.
Mais Iker Bravo, il performe pas de ouf en Castillan. Enfin, en début de saison, il était pas exceptionnel. C'est vrai que deuxième partie de saison, c'est un peu mieux, mais on est loin du Real Madrid. Hein,
en tout cas, en ce moment, il va mieux au Real Madrid.
Oui. Deuxième partie de saison, c'est ce que je disais, il est un peu mieux, mais clairement, ce joueur-là, de ce que j'ai vu, bien évidemment, alors je ne regarde pas tous les matchs de la Castilla, mais de ce que j'ai pu voir, il n'a pas encore le niveau de l'équipe première du Real Madrid. C'est un remplaçant pour lequel tu peux envisager de lui donner quelques minutes de jeu par-ci par-là, mais le voir plus que ça en équipe première, je crois que c'est un peu trop tôt pour lui. Il a besoin de plus d'expérience.
Ah ouais, mais tu vois, par exemple, à Iker Bravo, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. On va dire non à Iker Bravo, mais on va dire oui à l'attaquant de Palmeiras, Henrik. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on est dans le choix de l'étranger parce qu'il est étranger. Est-ce que c'est ça que la réalité du Real Madrid aujourd'hui? Que même, par exemple, on s'est même posé la question de comment s'appelle le Brésilien là, qui était en Ukraine là, qui a fait passer
Tobias,
son
temps en cassé. Vinicius Tobias.
Voilà, on était en train de nous préparer un storytelling où voilà, ce joueur-là était peut-être largement au-dessus de ce qui se proposait auprès du Castilla pour qu'il puisse monter en équipe première. Force est de constater qu'il va retourner en Ukraine. Bon, pas dans un contexte de guerre, hein, mais
le pauvre.
Non, j'avais une vanne, je ne vais pas la faire. Mais...
je crois que ça va... ta vanne là, je crois que je l'ai.
Voilà. On va garder ça. Mais tu vois, ça permet donc de pouvoir s'interroger un petit peu quand même sur cette orientation-là, de se dire qu'on va chercher des prospects ailleurs, alors que peut-être à deux pas de chez soi, on a peut-être la perle à qui on ne donne pas suffisamment assez de confiance et de temps pour être performante pour l'équipe première.
Mais tu vois, quand tu parles d'Henrik, c'est pas comparable. C'est un joueur qui a 16 ans, joue titulaire certes dans un championnat brésilien, mais qui montre des choses incroyables
pour son âge, et c'est très précoce, donc ça dépend déjà du joueur. Après, pour le cas Vinicius Tobias, j'ai l'impression que c'est un contre-argument à ton argumentaire, parce que finalement on regarde le potentiel du joueur, on essaie de le faire venir. On le fait jouer en Castilla, donc s'il ne confirme pas en Castilla,
ouais.
Il n'est pas assez bon. Et là, derrière, qu'est-ce qu'a fait le Real Madrid? Est-ce qu'on a poursuivi? Est-ce qu'on s'est entêté dans quelque chose avec ce joueur-là? Non.
Derrière,
tu repars, merci pour tout, petit, mais le Real Madrid, c'est pas encore fait pour toi.
Parce que l'investissement n'a pas été, on va dire, aussi important. Si on dit Vinicius Tobias, on rajoute 1-0 à son transfert, entre guillemets. Je pense que là, on aurait trouvé du temps pour lui permettre de s'imposer. Alors que là, je vous le dis tout de suite, pour Hendrick, qui va avoir 18 ans au mois de juillet prochain, et pareil, hein, c'est vrai que ça permet aussi d'aborder aussi le cas Arda Güler, hein, donc pièce rapportée de l'étranger qui ne joue pas, mais à qui on va demander du temps, on va nous dire que oui, c'est un crack, il a pris du poids, il pousse de la fonte et tout, etc. mais voilà, si on demande à un joueur étranger de venir au Real Madrid, on aimerait de sa part qu'il ait tout de suite le niveau et qu'il soit voilà quoi, qu'il soit opérationnel pour être un j'allais dire oui, une clé déterminante dans le jeu du Real Madrid. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis pris dans ce truc là, je voulais l'aborder. C'est dommage que Pablo ne soit pas là parce que je sais que lui il défend plutôt cette politique là. Mais non, je suis c'est, ça me chagrine un petit peu quand même. Ça me rend un petit peu chafouin quand même.
Après, c'est la politique du Real, elle a toujours été comme celle-ci, quasi. Toujours ouais. À regarder les potentiels, pas que et en Espagne.
On aime sortir des jeunes quand même.
Ouais, mais
là, cette culture-là, j'ai l'impression qu'on est en train de volontairement de vouloir la perdre.
Mais combien de joueurs depuis Raúl González, Blanco, qui sortent de la Castilla, oui. ont réussi oui, à triompher de façon.
Parlons, on va en parler.
Il
n'y
en a pas beaucoup.
Si, bien évidemment. Enfin, qui ont triomphé, quand tu dis triompher, vas-y, dans quel état de mesure de triomphe?
Ah, bah, c'est le plus haut niveau du football.
Quand tu dis ça. Quand tu dis peu au niveau du football, c'est quoi? C'est jouer en première division et en tant que professionnel, il fait une belle carrière? Il y a du mal.
Alors, pas que ça, parce que ça, effectivement, alors, toute proportion gardée, bien évidemment que ça, c'est déjà exceptionnel. Ouais. Mais là, je te parle du gratin, c'est-à-dire côtoyer les plus grands d'Europe, gagner des Ligues des Champions.
Ouais, bah.
Ce genre de choses et réitérer souvent la victoire en championnat, quoi.
Ouais, par exemple, un joueur comme Guti, c'est la situation dans laquelle il était.
Ok, Guti, vas-y.
Voilà, j'allais dire, là
oui, mais il n'y en a pas pléthore. Il y en a, mais il n'y en a pas des masses.
Carvajal est présent dans l'effectif, mais certains voulaient s'en débarrasser en début de saison, justement pour mettre encore un étranger. après, là, de tête, parce qu'en plus, parce
que Carvajal, qui voulait être à la place de Carvajal?
Non, de se débarrasser, enfin, c'est-à-dire qu'il voulait se mettre à la place de Carvajal.
Non, j'ai cru entendre que tu avais dit qu'un joueur étranger venait prendre la place de Carvajal.
Non, mais c'est genre que Carvajal, si, que là, c'est on est fatigué de Carvajal et qu'il faut le mettre de côté. Je sais plus qui le disait, donc.
Ok.
Mais,
James ou quelque chose comme ça.
Oui, voilà, les Rhys James, tout ça, les voilà. t'as vu Hichem.
Mais après, attends, Carvajal, il ressort.
Il devient quoi, Rhys James? Est-ce qu'il est meilleur que sa sœur? Ça, c'est terrible.
On peut dire envers lui, mais après, je vais pas défendre Rhys James. C'est pas forcément un joueur que j'apprécie outre mesure. Mais
tu vois, Rhys James, Alfonso Davies. Ouais, tu vois.
Non, mais Carvajal qui ressort quand même d'un gros coup de mou ces dernières saisons. C'était pas le Carvajal qui nous est présenté cette saison-là.
Ça fait quand même, là, on est en 2014, il est là au Real Madrid depuis, allez, 2013, plus de 10 ans. J'allais dire, ouais, si t'as un coup de mou, c'est pas grave, tu vois.
Ça a duré quand même depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Hein.
Non, ça,
franchement, Carvajal, moi, depuis la dernière victoire en Ligue des Champions, quand tu regardes son contenu, même sous Zidane, quand on gagne la Liga, c'était pas fou. Hein. Et des fois, je préférais même Lucas Vázquez. C'est une dinguerie ce que je dis, hein. Mais je préférais Lucas Vázquez en latéral que Dani Carvajal par moment.
Non, là tu vois, ça c'est parce que tu es aveuglé par la méchanceté, tu vois.
Tout de suite des grands mots.
Gros respect pour Lucas Vázquez dans
son
rôle.
Oui, clairement.
En tout cas, il performe à merveille.
Ah non, clairement, tu vois, donc c'est aussi cette chose-là, parce qu'en fait, il y a toujours ce savant mélange au Real Madrid entre jeunes du centre de formation. Quel qu'il soit, hein, justement, qui ont réussi à s'imposer, Iker Casillas aussi, qu'on aurait pu en parler. Les joueurs qui sont des Espagnols, qui connaissent bien le championnat et qui viennent, on va dire, apporter leur pierre à l'édit suisse, type Lucas Vazquez notamment, et les joueurs étrangers qui sont des joueurs stars de classe mondiale et qui viennent apporter cette valeur ajoutée à l'équipe. J'entends aujourd'hui que maintenant il faut recruter les jeunes joueurs étrangers assez tôt parce que on n'a plus les moyens, même si on va le voir dans quelques semaines, qu'on a la possibilité d'accueillir des joueurs de classe mondiale dans l'effectif du Real Madrid dans la fleur de l'âge. Mais je suis pas forcément d'accord sur le fait de pouvoir, on va dire, écarter cette identité de formation, cette identité espagnole du Real Madrid, parce que s'il y a 11 étrangers au Real Madrid, on va faire des saisons à la PSG.
Non, quand même pas.
Comment ça? Je le vois venir comme ça. Vous donnez le brassard à des Marquinhos. Moi, je suis désolé. Vous êtes champion de Ligue 1, mais actuellement,
au PSG, il y a quand même le meilleur joueur du monde. Il est français, formé en France. C'est selon le grand public.
Le meilleur joueur du monde ne peut pas jouer en Ligue 1. C'est tout. Déjà pour commencer.
Merci Gilles, premièrement.
Ouais, voilà.
Non, mais moi je dis ça pour le grand public. Moi je m'adapte à l'offre et à la demande.
Mais grand public de quel pays? Le grand public de France pense que la France est un grand championnat. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, monsieur?
Je ne sais pas. C'est ce que les journalistes disent. Donc moi, forcément, je m'adapte. Je suis le mouvement.
Mais vous êtes journaliste vous-même, vous pouvez pas dire des choses pareilles. Vous pouvez pas dire de telles
énormités. Oh, moi, je suis une petite main, vous savez.
Vous allez continuer à rester une petite main si vous continuez à penser comme ça.
Attention. L'attaque directe.
Non,
évidemment, c'est pas ma pensée. Moi, je l'ai dit, je suis un fervent convaincu. Pour moi, actuellement, le meilleur joueur du monde, c'est Vinicius. Et ça fait plusieurs semaines que je le dis.
C'est plus intéressant justement quand vous êtes en train de dire ça, puisque là vous parlez déjà donc des clés, des solutions qui vont faire en sorte que le match contre City va être fondamental dans la suite de la fin de saison du Real Madrid. Vinicius, et surtout puisqu'on a entendu aussi les préparateurs physiques du Real Madrid dire que on attend que Bellingham soit au top mi-avril, c'est le match de mercredi à l'Etihad Stadium. J'allais dire que la clé et la lumière doit venir de ces deux joueurs qui sont justement donc les clés de voûte du système Ancelotti et de la victoire éventuelle d'un Real Madrid s'il doit s'imposer à Manchester.
Oui, mais clairement, moi, je vais te dire, concrètement, ce match-là, ça doit être l'une des plus grandes nuits peut-être de l'histoire du Real Madrid à l'extérieur en Ligue des Champions, et il n'y a pas d'autre option. Si tu veux te qualifier, ça ne peut être que ça. C'est là, de toute façon, le scénario du match aller a fait que tu t'es mis dans cette configuration là et un match nul en prolongation, est-ce que tu auras les cannes pour tenir? Je ne pense pas. T'as galéré à tenir 90 minutes face à City après 9 jours de repos. Là t'as joué Mallorca, c'est pas la même intensité. Et ça s'est senti, le match était vraiment ennuyeux.
Match ennuyeux.
À mourir, ouais. C'est d'un point de vue du spectateur neutre. Mais là, est-ce que tu es prêt à batailler pour 120 minutes? Je ne sais pas. Donc en vrai, il faut tout donner sur 95 minutes. Et est-ce que tu es capable de le faire en 95 minutes? Honnêtement, oui. Est-ce que tu as les éléments pour le faire? Oui. Est-ce que tu as ce qu'il faut pour tenir la baraque derrière? Je le pense, en tout cas. Maintenant, est-ce que tu vas le faire? Parce que c'est la seule incertitude, finalement. C'est que les arguments sont là. Les éléments sont là, mais maintenant il faut y aller, quoi. Et là, il n'y a plus de calcul à avoir.
Et qu'est-ce qu'il en pense, Hicham, justement, après avoir vu Manchester City se battre Luton à domicile? Est-ce que, après avoir vu ce qui est Luton.
J'ai pas aimé la victoire de City en PL parce que ça leur redonne confiance, ils redeviennent leaders. Certes, je crois, un point ou deux de Arsenal, donc l'écart n'est pas. Donc, tu as toujours une certaine pression psychologique, mais tu as quand même cette position de leader. Donc, mentalement, les joueurs arrivent dans de très bonnes dispositions contre le Real Madrid. Après, il ne faut pas oublier que c'est une statistique que j'ai pu publier sur le compte, c'est que Manchester City, c'est invaincu à domicile depuis 40 matchs. Et j'ai envie de croire, comme Abdou, à une grande soirée européenne qui viendrait casser en fait cette série d'invincibilité.
Ouais.
Qui de mieux que le Real Madrid pour arrêter ce record de Manchester City, record qui, je crois, dure depuis. La dernière fois que City avait remporté autant de rencontres, c'était en 1919 jusqu'à 1921.
Oh, le...
Et ça remonte quand même. Donc, je ne sais même pas si c'était en quelle division. Enfin, bref, tout ça pour dire que.
Que Guardiola, justement, vous le critiquez, mais il bat des statistiques, justement, de gens. On va dire, au moment où le record a été battu, mais tout le monde est mort déjà, hein.
Ouais, c'est vrai. Mais, en tout cas, ouais, il y a un vrai challenge. C'est manifeste. Et on est un peu obligé, cette fois-ci, d'avoir, comme le disait Abdou, une nuit magique du Real Madrid en Ligue des Champions pour pouvoir espérer se qualifier en demi-finale. Mais le challenge est vraiment costaud pour le coup.
Ah, justement, je pense qu'il y a les raisons d'y croire, hein, et les raisons de... J'allais dire, ouais, non, les raisons d'y croire, parce qu'on va pas commencer à faire un preview pour dire, ouais, quelles sont les raisons de ne pas y croire. Ça, ce serait totalement bête de notre part de pouvoir le faire. Je pense que la presse française, hein, que Abdou aime bien relayer pour dire des énormités.
Nous sommes en France, je relaie à la presse française.
Ah, justement, mais la presse française pense que le Real Madrid ne doit pas passer le prochain tour. La presse française dit également que le Real Madrid, au mois de septembre, ne fait pas partie des 17 favoris de la Ligue des Champions. Voilà, donc, si vous voulez suivre cette presse française, voilà.
Écoutez,
le Real Madrid.
Pour ma défense, monsieur Lawson, je tiens juste à dire que je tiens à mon intégrité en tant que journaliste. Je n'ai pas envie de tirer sur mes collègues. Mais je ne suis pas d'accord avec vous.
Hein, vous tenez à votre carte de presse, et voilà, c'est ça la différence entre vous et moi, c'est que l'indépendance de parole et de ton sera toujours, on va dire, mon leitmotiv pour mes émissions, contrairement à vous justement qui vous fourvoyez dans des analyses corporatistes. Justement, ouais, d'un niveau que voilà, j'allais dire que le journalisme n'est pas honoré par vos positions. Je veux que vous disiez plus la vérité plutôt que
de dire la vérité d'autres personnes. C'est un scandale. Je suis outré parce que par vos propos, j'ai déjà eu plusieurs avis ici qui m'ont valu. Je me suis fait taper sur les doigts, hein, à cause de certains avis. Donc maintenant, j'optimise et je préfère la paix. Donc, je vais dans le sens de la majorité. Si tu me dis que Mbappé est le meilleur joueur de la galaxie, d'accord. Si tu me dis que demain Bellingham est surcoté, d'accord. Si tu me dis que un tel il est haï, d'accord. Laissez-moi tranquille. Ça y est, on m'a trop tapé sur les doigts. Je suis fatigué. J'en peux plus.
Il a plus envie de s'affirmer.
Franchement, non, c'est pas que j'ai plus envie de m'affirmer, c'est que j'ai plus envie de subir les tendances. Parce que là, regarde, on est dans un football où on a la recherche constamment de storytelling. Ça, c'est un problème. Parce que t'entends des choses qui t'hérissent le poil. T'entends des Saka, Foden, Odegaard, New Generation. Ça te parle de Mbappé, de Haaland. Et presque personne ne sait de Vinicius. Alors que c'est lui qui te produit le contenu le plus consistant et le plus dense
c'est
dans
le
les grands, grandes échéances
mondial.
De club.
Oui, c'est le visage du football mondial ce jour.
Oui, mais attention avec Vinicius, ne dites pas le mot danse, ça peut prêter à confusion pour certains.
Danse, D-E-N-S.
Oui, je sais bien, mais attention, voilà, précisez bien s'il vous plaît.
Oui, oui, non, je précise, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des gens de mauvaise foi qui passent par là et qui vont dire « Ah, non, ne vous inquiétez pas ».
Exactement, oui, parce qu'en termes de danse, il y a d'autres qui sont 4e, 5e du championnat qui le font très bien. Mais bon, on fera pas de...
Il aurait fallu qu'on ait un peu plus de rouge sur notre maillot et on aurait eu le droit.
Oui, bien sûr. Et qu'on soit un peu plus... Oui, rouge et blanc, bien sûr. Hein.
Voilà, ah, c'est ça. Blanc, on parle pas du Rayo Vallecano.
Ou blanc tout court. Hein. Bon, bref. Voilà. Non, on va conclure là-dessus. Après une heure de discussion, ça passe vite. Hein. Je voulais pas qu'on passe beaucoup de temps, mais ça passe très très vite. Ça fait plaisir. ça veut dire qu'on s'ennuie pas. Donc, en tout cas, moi, je m'ennuie pas. Je prends plaisir justement à échanger sur tout ça. Ben, soir d'Europe, bien évidemment. Donc, mercredi nuit, on va prendre l'antenne pour pouvoir débriefer cette rencontre de la Ligue des Champions, en espérant avoir donc de bonnes nouvelles, ou sinon on débriefera, on va dire, la chronique d'un échec plus ou moins annoncé, on verra bien. Messieurs, merci beaucoup.
Merci à vous, monsieur Lawson,
pour votre présence. Et on espère vraiment que là, le Real Madrid va nous faire vivre encore un soir magique d'Europe qui va encore faire mal à ses adversaires, comme il a eu l'habitude de le faire au cours de ces 25 dernières années. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Et comme toujours, et comme d'habitude, hein, à la Madrid.
À la Madrid. À la Madrid.